Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Merci. Et j'ouvre la séance avec le point 1, territoire à énergie positive pour la croissance verte. Le rapporteur est Monsieur Darbois.
Monsieur Humbert, chers collègues, c'est vrai que parfois les sigles, labels, etc. ne disent pas grand-chose au grand public. Et je suis même d'accord pour dire que parfois ce n'est pas sexy du tout. TEPCV, ça veut dire donc territoire à énergie positive. Vous voyez, il faut que je le relise parce que ça ne vient pas tout seul. Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Retenez que c'est comme l'agenda 21, la différence est que certaines actions sont éligibles à des aides de l'État. Pour nous, ça tombait bien puisque ces actions, nous les menons déjà. Nous avons donc saisi cette opportunité. Rappelons donc que la ville de Metz est labellisée Agenda 21 et que c'est l'une des premières villes d'Europe à avoir signé la Convention des maires. Plus de 20% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Rappelons que, afin de répondre à cet enjeu, nous avons déjà un plan climat. Donc, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a souhaité accompagner, par le biais donc de ce nouvel outil territoire à énergie positive pour la croissance verte, un certain nombre d'actions. Ces 7 actions sont donc éligibles. Elles sont décrites dans le rapport. Le montant des actions pour la ville de Metz est évalué à 944 000 euros et l'aide qui nous est proposée est de 400 000 euros. En conséquence, la délibération est soumise à votre approbation.
Merci. Alors, sont inscrits Madame Thomas, Madame Singer, Madame Nicolas et Zimmermann, Monsieur Cambianica, Monsieur Belladat. Madame Thomas.
Monsieur le maire, je vous remercie. Je dirais seulement que ça, quand on parle d'écologie, quand on a un agenda 21 qui est très scrupuleux au niveau de prendre des mesures fortes, quand vous avez un certain nombre d'OGN qui luttent au quotidien pour que justement les élus se sensibilisent aux problèmes d'écologie, vous en êtes seulement à proposer 10 vélos électriques, vous en êtes seulement à proposer le fait de refaire l'éclairage urbain, vous en êtes seulement à proposer d'en distribuer aux personnes des kits. Or, ce n'est pas des kits qu'il faut distribuer, ce sont avant tout faire le tour des habitations, des habitations notamment qui ont été construites dans les années 60, pour qu'il y ait réellement un diagnostic sur l'état des habitats. Hein, on sait qu'à Metz, il y a des habitats pour lesquels les gens n'ont pas le droit de percer dans les murs, justement parce qu'il y a des problèmes d'amiante. On sait qu'il y a des immeubles mal insonorisés. On sait qu'il y a tout un aspect de nuisance pour lesquels les gens doivent subir ça au détriment de leur santé au quotidien. L'écologie doit être avant tout quelque chose qui se vit au quotidien, qui est surtout un bilan que les gens font au bout de quelques années d'avoir vécu dans un lieu et de voir aussi comment il peut se transformer pour apporter des nuisances dont on n'avait jamais demandé justement qu'elles viennent. Quand on parle de circulation, on se rend compte aussi qu'il n'y a absolument rien qui est abordé à Metz pour qu'il y ait vraiment une valeur dans cette réflexion qu'on apporte au transport en commun qui normalement sont ce qui doit sauver l'humanité de la pollution hein, quand on ose bannir la voiture alors qu'on sait que maintenant les voitures sont de plus en plus moins polluantes et qu'au contraire les bus, certains bus sont utilisés avec des capacités bien plus polluantes que les voitures. Autre question aussi, quand on parle de faire se côtoyer le vélo par rapport à des grands axes routiers, des boulevards, ce qu'on appelle ring, et qu'on ose encore dire que boulevard de Trèves, il faut des pistes cyclables. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Il faut surtout laisser à la voiture la place qu'elle doit avoir. Il faut surtout avoir une intelligence de gérer correctement les transports en commun. Il faut avoir une intelligence de voir que pollution égale mal vivre en ville, santé, qu'un arbre, c'est extrêmement utile, que justement le centre-ville manquera d'arbres bientôt. Hein, je vous dis bientôt. Puisqu'a priori, il y a une perspective d'avoir abîmé copieusement les arbres lors des travaux métis. Je vous rappelle que la charte de l'arbre est arrivée après les travaux. Qui verra, vivra. Qui vivra, verra. Hein. Et c'est toute une autre réflexion qu'il faut avoir. Parce qu'on ne parle jamais de santé, on ne parle jamais d'aménager des parcours de santé bord de Moselle, alors qu'on sait pertinemment qu'avant qu'on ait le moyen pont qui soit transformé en pauvre pont médiéval de 10 mètres d'élargissement, nous avions vraiment le parcours de santé des médecins qui était bien le long des quais. Alors si certaines personnes devant moi soupirent, eh bien c'est dommage pour elles qu'elles aillent respirer, effectivement. Une alerte à donner par rapport à ces transports communs, par rapport à la place du vélo, pour laquelle il y a vraiment beaucoup trop d'insuffisance. Essayez de faire du vélo à Metz, vous verrez que c'est impensable. C'est à chaque fois des pistes qui sont coupées, qui sont cassées. Hein, ce que l'on attend, c'est surtout qu'il y ait une réflexion par rapport à l'énergie. Quand on voit qu'il y a des hauts bâtiments qui ont été construits, qu'on n'a même pas pensé à des panneaux solaires, qu'on n'a même pas pensé justement à des énergies renouvelables qui peuvent être considérées comme des alternatives. Hein, qu'on pense encore biomasse avec le fait qu'une biomasse, c'est une chaudière, une grosse chaudière qui marche encore avec le bois. Alors que la place de l'arbre doit avoir une autre perspective, simplement être un poteau qui empêche de circuler, qui dévie la circulation, qui est simplement, encore une fois, du bois de chauffage. Malheureusement, le temps qu'on donne toujours à ce propos est toujours trop, trop long, hein, et c'est là qu'on veut toujours le couper, alors que c'est vraiment la réflexion, et la réflexion d'avenir, parce que le développement durable, c'est à partir du moment où on plante un arbre, c'est pas pour le couper 15 ans plus tard. C'est au contraire, on a une perspective beaucoup plus grande. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Singer.
Alors, monsieur le maire, je ne vais pas passer par quatre chemins. Vous nous demandez aujourd'hui de voter pour la mise en place de cette convention. Nous allons voter oui, car pour une fois, vous n'allez pas faire les poches des Messins, comme vous le faites d'habitude, et c'est une bonne chose. Mais je souhaite aborder avec vous deux choses. Alors, la première, c'est que malgré mes interventions régulières sur le sujet de la transition énergétique de notre ville, vous persistez encore et toujours à axer votre action sur la rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics, qui ne représentent que 3% des émissions de gaz et effet de serre. Et bien évidemment, vous préférez donc dépenser plus de 10 millions d'euros depuis 2008 pour limiter justement la consommation de ces bâtiments publics, d'aller vers des actions concrètes, vers l'une des premières causes des émissions de gaz à effet de serre, qui est l'habitat individuel, qui représente tout de même 42% de ces émissions de gaz. Alors, proposer des kits à économie d'eau et d'énergie pour 20 000 euros, pour moi, c'est juste anecdotique. Deuxième point qui m'amène à prendre la parole. Dans cette convention, vous vous apprêtez à signer avec l'État. Il est question de la création d'une liaison douce rue du Nord, au croisement de la ligne Métis et de la ligne ferroviaire Nancy-Metz-Luxembourg. Alors, formidable, je dis juste formidable, parce que de liaison douce, monsieur le maire, il faudrait surtout qu'il y ait une liaison forte, car aujourd'hui, les frontaliers messins qui travaillent à Luxembourg aimeraient justement qu'il y ait une liaison, hein, et que cela fonctionne parfaitement. Or, ce n'est toujours pas le cas. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la liaison Nancy-Metz-Luxembourg est supprimée depuis le 14 février, ce qui a un impact désastreux pour les milliers de frontaliers messins qui doivent se rendre à Luxembourg et qui doivent faire preuve aujourd'hui de système D, hein, pour se rendre de l'autre côté de la frontière. Mais et à quel prix ? Famille, boulot, trajet, des heures perdues dans les transports, de l'inquiétude aussi. Et où êtes-vous, monsieur le maire ? Je ne vous ai jamais entendu sur le sujet, hein, ni avant, ni aujourd'hui. Je vous rassure, vos amis écologistes non plus, alors qu'ils devraient être les premiers à le faire et monter au créneau, sur le sujet des transports et des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Alors, vous devriez être l'acteur principal en la matière, un acteur engagé, actif, hein, dans l'intermodalité. Élever le ton, demander des comptes, réclamer notamment une commission transfrontalière d'évaluation du réseau ferroviaire. Vous êtes par ailleurs président, alors ça c'est quand même fort, vous êtes président de l'association du Quatropole dont je fais partie. Ai-je reçu un email, une lettre de votre part stipulant que vous souhaitez, pour le bien des frontaliers, notamment messins, organiser une réunion en urgence? Absolument pas. Nous n'avons rien reçu, mes collègues non plus. Alors, moi qui suis frontalière depuis 22 ans, et je ne suis pas la seule dans cette assemblée, je n'attends plus rien du gouvernement, hein, socialo-macroniste aujourd'hui, dont vous vous réclamez, mais j'attends tout du maire de cette ville qui doit faire entendre sa voix sur ce sujet primordial. Vous êtes le premier magistrat d'une des villes les plus importantes de la région Grand Est. Vous êtes également vice-président de Metz Métropole, qui va passer métropole en 2018. Vous êtes conseiller départemental de la Moselle. Et je vous rassure, monsieur le maire, je termine simplement. Vous n'êtes évidemment pas le seul à ne rien faire pour les frontaliers. D'où vous ne parlez pas. Il y a également ici dans cette assemblée deux députés, je ne les ai jamais entendus parler non plus des frontaliers, ni de ce sujet primordial aujourd'hui pour eux. Aujourd'hui, personne ne parle de ces frontaliers, de ce qui se passe, et c'est inadmissible.
Merci,
voilà,
madame.
Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Nicolas.
Bon, ben, je vais être beaucoup plus rapide.
Allez-y, madame, tranquillement.
Je vous remercie. D'abord, je constate que certains partis sont aussi mauvais en matière d'écologie qu'en matière d'économie. Il va falloir qu'on se penche sur le sujet, monsieur Darbois, pour leur expliquer certaines choses. Je voulais juste vous demander si on pouvait éventuellement faire une évaluation chiffrée sur les actions qu'on a engagées depuis un certain temps en matière de développement durable, sur les sommes investies, sur les retours sur investissement, sur les réductions, les bilans carbone, afin simplement de juger l'efficience des actions, si elles sont valables ou pas. Moi, je suis un peu sceptique, je vous l'ai déjà dit, sur le changement systématique de l'aide. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions, mais après tout, si les chiffres me prouvent le contraire, je me tairai. Voilà. Et puis, si on pouvait anticiper certaines actions, c'est aussi ça, le développement durable. Je vous l'ai dit la dernière fois, pour l'enfouissement, c'est vrai aussi quand on change les pôles de mobilité comme derrière la gare, ça c'est prévoir. Et c'est vrai aussi boulevard de Trèves. Alors je ne sais pas, je n'étais pas à la dernière commission, je ne sais pas à quelle hauteur on fait la piste cyclable. Si c'est dans la continuité du... Monsieur Darbois, dit pour me répondre. Dans la continuité... Mais ça, les travaux, ils ont été faits il n'y a pas tellement longtemps. C'est le genre de choses qu'on pourrait envisager en amont plutôt que de recommencer... Voilà, ça rentre dans le cadre du développement durable. Je vous remercie.
Merci. Et Madame Zimmermann, vous avez un droit de réponse puisque vous avez été mise en cause en tant que députée. Je donnerai également la parole à Madame Aurélie Filippetti après. Allez-y, parce que
vous
comme
savez,
ça...
Monsieur le Maire, je pense que c'est totalement inutile de répondre. Bon, vous savez, je
crois vous avez le droit. Vous êtes pas
oui,
obligé,
non, mais... vous êtes très gentil de me donner le droit de réponse. Mais vous, voilà, vous savez, vous comme moi, nous sommes habitués en période électorale à être attaqués sur certaines choses. Voilà, c'est pas grave. Mais ça passe. Moi, j'ai deux questions très rapides à vous poser. Première question, le Métis électrique, c'est pour quand ? Première question. Voilà. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, on aurait vraiment des bilans, mais alors extraordinairement bons. Et deuxième autre question, la vignette. Certaines villes l'ont adoptée, Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, la vignette anti-pollution, elle n'est pas chère, 4 euros, et si vous voulez, je voulais savoir si un jour Metz a envie de l'adopter, tout simplement, bah c'est pratique, hein, parce que bah, on se déplace en voiture de temps en temps, et si on a cette vignette sur nos véhicules, c'est pratique pour aller dans les villes où la vignette a déjà été votée. Donc Metz souhaite-t-elle un jour adopter cette vignette ? Je vous dis 4 euros, c'est pas beaucoup. Merci.
Merci madame. Une députée peut en cacher une autre. Je vais donner la parole tout de suite à madame Filippetti avant Guy Cambianica, puisqu'elle a été mise en cause également par madame Singer. Si par hasard elle voulait répondre, elle a la parole.
Merci monsieur le maire de me donner ce droit de réponse. Je veux répondre à Madame Singer que je suis extrêmement attachée à la question transfrontalière et à la situation des transfrontaliers, dont un certain nombre vivent dans ma circonscription, puisque ma circonscription, je le rappelle, va jusqu'à Romba et Amnéville, et que tout d'abord, je me suis prononcée pour la gratuité du parking autour de la gare d'Agondange, contrairement à ce qui a été fait par l'intercommunalité d'Agondange, qui pose un grand nombre de problèmes aux habitants de ma circonscription qui viennent des villes alentours et qui ont besoin de se garer autour de la gare. Et donc, je le répète, moi, je suis favorable à ce que ces parkings, qu'on aménage, le cas échéant, un parking couvert, etc., mais que ça reste gratuit pour les transfrontaliers. Et d'autre part, justement, pas plus tard qu'il y a un mois, Madame Singer, j'ai posé une question écrite au gouvernement que j'ai dans mon téléphone. Donc, je vais vous en donner la lecture, c'est assez court. Donc j'ai posé une question écrite au ministre de l'économie et des finances sur l'accord transfrontalier entre la France et le Luxembourg en matière de fiscalité. La France a conclu des accords fiscaux et financiers avec quasiment tous les pays limitrophes qui accueillent des travailleurs français. Le dernier accord ratifié entre la France et le Luxembourg date de 1958. Or, depuis 59 ans, la situation a incontestablement évolué. D'insignifiant en 58, le nombre de travailleurs est passé à 90 000 aujourd'hui et pourrait s'élever à 130 000 d'ici 5 ans, selon l'Institut de la Grande Région. Le volet fiscal de notre coopération avec le Luxembourg doit évoluer et s'inscrire dans une logique européenne de développement d'espaces transfrontaliers qui ne pourra être mutuellement efficace qu'à condition d'une répartition équitable des charges et des ressources des deux côtés de la frontière. L'accord ratifié en 73 entre la France et le canton de Genève prouve que cette coopération est possible. Cet accord se traduit dans les faits par le reversement au département de l'Ain et de la Savoie de 3,5% de la masse salariale des travailleurs français. Cette masse financière non négligeable permet aux communes limitrophes de développer des projets qui bénéficient à tous. Cela contribue des deux côtés de la frontière à un accroissement de l'attrait des territoires concernés. Aussi, je demande au ministre de bien vouloir préciser quelles seront les mesures mises en place par le gouvernement pour qu'un accord du même titre, équitable et sur des bases de gagnant-gagnant, puisse voir le jour entre le Luxembourg et la Moselle.
Merci madame. Monsieur Gambianica.
Oui, monsieur le maire. La vie ne se passe pas que sur Facebook et pas forcément dans la gesticulation médiatique. Je voulais préciser pour ceux qui en douteraient que le maire m'a délégué pour des discussions avec les autorités chargées du transport, dont ce n'est pas la compétence de la ville pour ce qui concerne la SNCF. Et donc, je discute avec les autorités compétentes pour faire en sorte que le projet d'A31 bis soit accompagné également de modes alternatifs de transport suffisants en nombre, en qualité, en fréquence, etc. Et donc, non, nous ne faisons pas de gesticulation médiatique, mais nous travaillons. Et lorsque les résultats seront probants, eh bien, nous communiquerons sur le sujet. Cela étant, depuis 2008, la ville s'est engagée dans un vaste challenge de développement durable. Beaucoup a été fait, en particulier à titre d'exemplarité, mais pas seulement. Des résultats tangibles ont été atteints. Je pense que M. Darbois en donnera quelques-uns à l'issue de cette présentation. Il s'agissait de montrer l'exemple aux acteurs privés et sortir d'une vision purement comptable pour entrer dans une action à long terme. Les grandes infrastructures ne sont pas amorties en 3 ans. Ce mouvement, ces investissements s'inscrivent dans un temps plus long mais concourt à préserver l'avenir de nos enfants et petits-enfants. À Metz, cette continuité dans l'action, cette accélération, si l'on considère les nouveaux succès remportés dans l'isolation des bâtiments, mais aussi dans la redéfinition du partage de l'espace public dans le cadre des transports, permet de présenter un dossier d'accompagnement financier de l'État qui n'a rien d'un décor de théâtre. C'est du concret, du solide, du pragmatique, que les initiateurs politiques d'origine et les services de la ville engagés dans ces démarches en soient remerciés. Cependant, nous ne devons pas nous satisfaire de ces résultats et devons renouveler notre contrat moral et politique avec les Messins afin de réengager des crédits significatifs et continuer de traiter bâtiments municipaux et infrastructures de la ville. Le passage prochain en métropole ne nous exonère de rien. Merci.
Merci. Monsieur Belhadad.
Merci, monsieur le maire. Donc, je voudrais d'abord saluer ce rapport. Et à travers ce rapport, notre volonté d'aller plus loin dans un territoire énergie positif. Je voudrais aussi dire que le bilan est tout à fait remarquable. Bien entendu, ce rapport, on peut toujours faire mieux. Et c'est aussi le sens de ce rapport. Le bilan est remarquable, je le disais à l'instant. Pardon, je vais terminer.
Monsieur Belhadad, vous avez la parole.
Oui. Le bilan, je le disais à l'instant, est tout à fait remarquable, dans le domaine notamment des transports avec le Métis ou le plan vélo, sur le jardin partagé, sur la rénovation des bâtiments. Et vous savez qu'on avait initié il y a quelques années un programme de travaux de performance énergétique sur nos gymnases. Attends, excusez-moi, juste un instant.
Éteindre.
C'est ce que je veux faire.
C'est facile à faire.
Voilà, excusez-moi. Je parlais notamment des rénovations des bâtiments municipaux. C'est 14 millions d'investissements. Investissement aussi à hauteur de 50 millions dans une centrale de biomasse et notamment avec un outil extraordinaire qu'est l'UM. Mais je voudrais en fait mettre l'accent sur la nécessité de l'engagement des citoyens. La transition énergétique ou écologique ne peut se réaliser que si nous parlons aussi de transition sociétale, urbaine et territoriale. Pour moi, elle est une condition essentielle de cette réussite. Nos collectivités élaborent et mènent des politiques énergétiques et climatiques, s'engagent dans des projets de production renouvelable et de sobriété énergétique et mobilisent leur territoire. L'un des axes de cette mobilisation est notamment donc la sensibilisation des citoyens, rendre visibles les actions engagées et leurs effets, certes environnementaux, mais aussi financiers, économiques, donc conférer à la transition vraiment un aspect tangible pour nos concitoyens. La participation habitante s'exerce via la formation sur les projets, le recueil de l'avis des citoyens, l'élaboration collective, afin de construire une position commune et encourager l'engagement des parties dans la réalisation d'une action. À Nantes, par exemple, on a eu un grand débat citoyen sur le thème « La transition énergétique, c'est nous ». Autre exemple, j'en terminerai là, dans la commune de Saint-Georges-les-Bains, dans le département de l'Ardèche, avec la construction d'un parc éolien de Planèse. Ce parc éolien de 5 éoliennes disposera d'une puissance installée de 11,5 MW. L'entreprise a choisi d'associer les riverains à la réalisation du projet et de leur faire bénéficier des retombées économiques en leur permettant de participer à son financement. Dans l'objectif de réaliser cette collecte, la FEM notamment appelle à une plateforme spécialisée dans le financement participatif des projets liés à la transition énergétique, c'est NRFIP. Ils ont pu, de cette manière, pu recueillir 200 000 euros. Ça a été étendu notamment aux salariés et au grand public. Donc l'idée à retenir, c'est vraiment que la transition écologique doit être couplée avec une transition sociétale qu'il faut absolument construire.
Merci, monsieur Darbois.
Oui, merci, monsieur le maire.
Quelques éléments de réponse.
Je ne pensais pas susciterait avec ce dossier autant d'intérêt. Alors, je commence par madame Thomas, qui était la première intervenante. Alors là, elle est grave, hein, madame Thomas, quand même, elle est grave. Hein. Elle n'a absolument rien compris de ce rapport. Nous avons évidemment, mais essayez de lire quand même, beaucoup plus d'actions liées au développement durable et solidaire. Je le redis parce que je crois l'avoir dit, nous ne présentons ici que ce qui est éligible. Et nous avons saisi cette opportunité qui n'existait pas encore, il y a quelques jours, quelques semaines, ça n'existait pas. Donc nous avons pris ce qui était éligible, nous en avons présenté beaucoup plus, puisque les sommes étaient, on nous promettait un peu plus que 400 000 euros, ça a été 500 000, ça a été un peu plus à un moment donné, et on a calé ça sur ce qui était éligible pour obtenir ces 400 000 euros d'aide de l'État. Voilà. Hein, et pourquoi ça a baissé à un moment donné, pourquoi c'était un peu plus, je suppose que c'est simplement des problèmes budgétaires, mais de l'État. Nous avons donc saisi, madame Thomas, une opportunité, et vous savez bien que la mission développement durable et solidaire ne se limite pas aux 7 actions qui sont présentées là. Madame Singer, grave aussi, je dois dire, hein, elle n'a pas encore compris que nous, quand nous avions, dans cette première mandature, 2008-2014, travaillé sur les bâtiments de la publique, dont nous maîtrisons les bâtiments de la municipalité. Je rappelle, piscine, gymnase, école. Je peux vous donner un chiffre aujourd'hui. La baisse, l'économie en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'était votre question, c'est aujourd'hui affirmé 46%. 46%. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans les plus de 20% que nous avons, que nous avons signés, auxquels nous nous sommes engagés à Bruxelles en 2009 ou 2010, je ne sais plus. Mais ça ne vous a pas échappé non plus que dans cette seconde mandature, avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, je vous remercie parce que j'aime bien en parler de l'Agence locale de l'énergie et du climat, ce sont aujourd'hui, et là on travaille sur le privatif, c'est beaucoup plus compliqué, c'est du faire-faire, c'est plus on fait, on tente de faire-faire à des acteurs privés à les convaincre d'abord d'investir sur le propre bien pour faire des économies d'énergie et par là et faire des économies de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a à peu près 30 copropriétés que nous accompagnons ou que nous allons accompagner et qu'aujourd'hui, un chiffre aujourd'hui, le budget de l'ALEC annuel, c'est 412 000 euros pour faire fonctionner l'ALEC, c'est 412 000 euros, 9 salariés, c'est essentiellement des salaires. Le chiffre d'affaires de 2016, c'est 5 millions,1 millions. Voilà. Avec 400 000 euros d'argent public, l'ADEME, la ville de Metz, etc., la région surtout, merci, la région, etc., donc 400 000 euros d'argent public, nous avons dégagé 5,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est important, ce que je ne sais pas dire encore aujourd'hui, c'est de mesurer combien ça fait d'emplois dans les entreprises. Ça, je ne sais pas le dire, mais j'ai bien l'intention de le savoir à un moment donné et prochainement, mesurer combien ça fait d'emplois. Madame Nicolas, c'est ça que je voulais vous dire, parce que ça rejoint un petit peu ce que vous me demandiez. Je voulais vous donner ces chiffres-là, 412 000 euros et 5 100 000. Et ce que je ne sais pas dire, c'est en termes d'emplois pour les entreprises. Mais on le saura. Mais on est sûr, ça c'est sûr, c'est de la retombée économique sur des emplois locaux. Emplois locaux. C'est, merci de le dire, c'est vrai que c'est plus qu'un début. Je vous assure qu'il y a une méthode, je le dis aussi comme ça, il y a une méthode pas trop longue, on a pris notre temps d'organiser ça. Aujourd'hui, on en a les retombées et j'espère bien qu'on puisse vous dire un jour et prochainement, ben voilà, concrètement, ça fait tant d'emplois. Madame Zimmermann, je laisserai le président des TAM-TCRM répondre sur la prédisposition à l'électricité, à un transport totalement électrique. Je vous ai répondu dans la cour il n'y a pas très longtemps, hein, je vous ai donné mon avis là-dessus, mais le président et le maire de Metz répondra beaucoup plus précisément que je ne saurais le faire. En tous les cas, voilà. Sur la vignette, ça ne nous a pas échappé, bien sûr, que cette vignette critère, hein, ça s'appelle, je l'ai demandé. Personnellement, je vais en avoir une sur ma voiture. Je n'ai pas trop parlé encore à Dominique Gros, donc ce que je dis là, je crois qu'il faut regarder ce qui se passe dans les grandes villes. Aujourd'hui, les grandes villes sont intéressées. Je pense, grandes villes, Paris, bien sûr, mais d'autres villes très polluées, comme Grenoble, par exemple, hein, Lyon, etc., hein. Mais moi, je regarde d'une manière précise, encore une fois avec méthode, comment ce système fonctionne et si, évidemment, on ne peut pas faire encore mieux. Et quelques idées là-dedans, mais je trouve que ce départ que Mme Hidalgo a initié, je trouve ça très, très intéressant. Par ailleurs, j'avais rencontré Mme Hidalgo quand elle était présidente de Parif, de Air Parif à Paris. Je ne suis pas étonné de ce courage, on peut le dire comme ça, pour trouver des solutions concrètes au sujet des pollutions de grandes villes. Guy Cambianica, effectivement, tu as raison, Guy Cambianica, redire qu'on a eu une méthode 2010-2020, que là-dedans, il y a eu effectivement des choses de fait, je ne vais pas les reciter, mais notamment le partage de la voirie, tu as repris cette délégation, et je trouve que, très, très sincèrement, hein, ce n'est pas forcément toujours facile, parce qu'on est au contact des citoyens, ils ne sont pas toujours d'accord, mais je trouve que c'est bien de transmettre parfois une délégation, parce que le suivant fait au moins aussi bien, voire mieux. Le baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est tout azimut. Hein. C'est tout azimut. On voit partout, en ce moment, partout, sur le territoire de la ville de Metz, l'action est complète. J'hésite pas à parler quand même de ce qu'on a pu faire, c'est l'inventaire de la biodiversité. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on a en termes de biodiversité sur le territoire, ce qui nous permet... Comme on la connaît, on sait la protéger, et c'est bien sûr Marilyn Molinet qui s'y est collée, et je trouve que ça avance bien. Tu as parlé de transversalité, en fait, Belkir Beladat, tu as raison. Aujourd'hui, la transversalité, bien sûr, entre nos délégations, entre nous. Déjà, d'une part, ce n'est pas toujours facile parce que nous portons ensemble la mission du développement durable. Ce n'est pas que l'adjoint et le maire qui portons ces actions-là, c'est aussi toutes les délégations, c'est évident. Et aujourd'hui, effectivement, et on en parlera prochainement, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers les citoyens, il faut aller beaucoup plus vers les citoyens acteurs, c'est ce que tu disais, parce qu'ils détiennent. Ils détiennent la solution, j'allais dire comme on disait à un moment donné, du vivre ensemble, et du vivre ensemble en protégeant notre nature, notre biodiversité, notre air, etc. Voilà, je crois en avoir terminé et avoir été à peu près complet sur les questions, sauf le transport.
Merci monsieur Darbois. Alors, ça a été bien dit, hein, c'est une opportunité qui se présente à nous, parce que le gouvernement fait des propositions aux collectivités, et nous avions énormément de bon sujet, déjà en cours, qui pouvait rentrer dans cette possibilité et ramasser 400 000 euros en passant sur des objets dont nous avions déjà décidé la réalisation, était effectivement une belle opportunité. Et je remercie les services de l'avoir saisi et les élus responsables. Moi, je voudrais quand même ajouter deux ou trois choses, parce que Madame Thomas, considérer que le moyen pont est un pont moyenâgeux, c'est de l'obscurantisme moyenâgeux. Voilà. Et je leur ai dit parce que ça suffit. Au début, j'ai été assassiné avec ça. Mais la plupart des gens convenables ont été chercher les photographies du pont détruit pendant la guerre de 40-44. Même Monsieur Lebeau s'en est aperçu à la fin. Et donc, au fur et à mesure, l'obscurantisme a reculé. Et il n'y a plus que vous au Front National qui croyez que ce pont est un pont du Moyen-Âge. Alors voilà, je vous l'aurais dit, c'est franchement une remarque obscurantiste. Deuxièmement, dire que les bus polluent plus que les voitures, écoutez, c'est pas sérieux, c'est que le nombre de personnes transportées dans un bus, regardez comment fonctionne un métis. Hein, alors tous les bus ne sont pas remplis et pleins, mais globalement, tout le monde sait qu'il y a moins de consommation de carburant et d'énergie dans un transport en commun que dans un transport individuel. Je m'excuse de le dire, mais c'est tellement important. Troisièmement, énergie renouvelable. Attendez, la centrale à biomasse, c'est l'équivalent de 20 000 voitures par an faisant 15 000 km. 20 000 véhicules pour la centrale à biomasse, celle qu'on a faite à l'UM, avec les résidus de bois qui, jusqu'à présent, étaient abandonnés dans la forêt pour l'essentiel. Alors, ouvrons nos yeux, c'est pas la peine seulement d'aller voir le film demain. Hein. Voyez tout simplement ce qui se passe à Metz, parce que moi j'étais voir le film demain, et en sortant, on me disait, alors Dominique, quand est-ce qu'on fait ça à Metz? Je me dis, écoute, on le fait déjà, on a les jardins partagés, on fait... Bon. On a un réseau de chaleur de 45 000 équivalents logements qui est tout à fait exceptionnel, qui à 70% est alimenté sans carbone fossile. Moitié avec les ordures ménagères, moitié avec la centrale à biomasse. Donc, soyons au moins fiers de ce que nous avons et puis prenons-en conscience. Il n'y a que les autres qui le savent. Quand je vais à Washington, quand je vais à Stuttgart, mais ici, vous ne le savez même pas au conseil municipal. Quand même. Alors, j'explique. Maintenant, j'explique tout simplement, Madame Zimmermann, je vais vous répondre. Le métis, tout a été prévu dans les réseaux infra, dans la voirie. Il y a deux tubes rouges, il y en avait six, il y en a deux qui sont vides. Et l'objectif est de faire un système par biberonnage à chaque arrêt, à chaque station, les engins suivants. Alors, un métis, ça dure à peu près 15 ans. Et donc, il est hors de question de bazarder prématurément des engins qui eux-mêmes, d'ailleurs, sont hybrides. Je vous rappelle que les moteurs qui fonctionnent aux roues sont des moteurs électriques. Il y a des gros systèmes de batterie dans la toiture et il y a un diesel qui produit l'électricité. On économise entre 20 et 22% de l'énergie par rapport à un bus standard. Et donc, on va attendre, c'est pas pour tout de suite, on va attendre d'avoir amorti les 27 métis existants, on va observer ce qui se passe chez les autres, parce qu'un des gros avantages du dispositif que nous avons fait, c'est que nous, on n'a pas de panne, on n'a pas d'ennui, on n'a pas essuyé des plâtres, on a fait quelque chose de totalement nouveau que tout le monde vient voir, mais qui était fait qu'avec des produits classiques, puisque c'était un système à trois caisses, ça existait, des voiries, ça existait, et tous les systèmes qu'on a mis en place existaient déjà. C'est l'ensemble qui est original. Et donc, c'est maintenant dans une douzaine d'années, à mon avis, ça fait 3 ans que les engins fonctionnent, mais ils ont déjà fait un nombre de kilomètres incroyable. Il y aura des changements de moteur, etc., parce que ça tourne tout le temps. Hein. S'agissant de la vignette, René Darbois a bien répondu, mais simplement sachez une chose. Le mieux est l'ennemi du bien. Nous avons une ville, ça a été dit il n'y a pas longtemps, je crois que c'est dans le Républicain Lorrain, avec le nombre d'heures passées dans les embouteillages dans les villes. Et on a constaté qu'on est une des villes de la grande région, des régions Grand Est, où on passe le moins de temps, on passe plus de temps dans un embouteillage à Thionville, on passe plus de temps dans des villes même plus petites que Metz. Je ne parle pas de Nancy, de Strasbourg, etc. On a une ville qui, globalement, a un bon système de transport pour automobile. Donc, allons-y doucement. Il y a également un niveau de pollution de type Paris ou autre qui n'existe pas ici, ou très, très rarement. Hein, on n'est pas à Grenoble, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Strasbourg, où c'est aussi... bon. Et donc, j'y vais doucement. Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour un classement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour un classement et qu'on sera aussi dans la course. Mais il ne faut pas se précipiter parce que pour l'instant, ici, on s'en sort plutôt bien dans la géographie qui est la nôtre. Hein, puisqu'il y a toujours quand même un peu de vent. On est entre les collines des côtes de Moselle, mais pas au point d'être transformé en cuvette. Même si on a senti quand même cet hiver des périodes hein, où la pollution montait. Alors... J'étais très touché par la remarque de M. Belhadad sur la transition énergétique que c'est nous, parce que c'est vrai. Hein? Et d'ailleurs, il le sait lui-même parce qu'il est administrateur de l'UM. On envisage de pouvoir donner aux citoyens la possibilité de participer financièrement à la construction de champs d'éoliennes. C'est une chose qui a déjà été évoquée au Conseil d'administration. Ce n'est pas encore décidé, mais c'est tout à fait intéressant d'impliquer les gens dans la transition énergétique par des mesures diverses et variées. Les différents jardins partagés, Mme Agamemnon n'est pas là, mais on en a de plus en plus, les incroyables comestibles, toutes ces choses qui permettent de mettre la main à la pâte font prendre conscience aux gens. Hein, CPN Le Coquelicot et autres font comprendre aux gens qu'ils sont des acteurs de leur propre destin écologique. Et quand on voit le nombre de marchands de produits bio qui s'installent maintenant et qui vendent bien à Metz, et même les agriculteurs derrière qui sont de plus en plus nombreux, en fait... Toute l'affaire est là, la transition énergétique, c'est nous, l'écologie, c'est nous. On a simplement besoin, nous les élus, et je le dis ici à tout le monde, d'expliquer. Parce qu'on a déjà fait des choses intéressantes à Metz, on en a encore à faire, mais quelque part, n'ayons pas honte du résultat, puisque vous voyez, quand il y a un appel à projet du gouvernement, on arrive tout de suite à rentrer beaucoup de nos projets qui correspondent tout simplement à ce qu'il convient de faire dans une grande ville. Voilà ce que je pouvais dire en remerciant. Alors, Alec, j'en ai pas parlé. C'est un très beau projet que met en route M. Darbois, parce que jusqu'à présent, on était plutôt avec les sociétés de HLM et avec les locaux municipaux, les locaux officiels. Et on commence à avoir des résultats avec une grande copropriété qui est celle d'une propriété du Pontifroid. Et ça, c'est une nouveauté, parce que ça fait dire que les gens se réunissent des heures de travail pour se dire qu'est-ce qu'on fait dans nos propres logements collectifs, où actuellement le chauffage est partagé, c'est-à-dire que quand il y en a un qui ouvre la fenêtre, c'est les autres qui payent. Quand il y en a un qui met des doubles vitrages dans son appartement, il rend service à tout le monde, mais pas plus à lui qu'aux autres, je dirais même simplement en proportion. On a là des progrès considérables à faire dans des constructions qui ont été faites dans les années 70, hein, et même encore 80, hein, où on n'a pas responsabilisé l'énergie. Et en réalité, c'est dans les copropriétés qu'il y a le plus de difficultés, parce que les bailleurs sociaux ont fait le boulot. Les bailleurs sociaux, ce sont des pouvoirs bien identifiés et on est là. Par contre, dans les copropriétés, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, moi, je suis âgé, j'en ai rien à faire, etc. Du moment que c'est chaud, j'ai les moyens, je peux payer. On a des contradictions entre les différents propriétaires, d'autres propriétaires qui sont ailleurs. Ce n'est pas moi qui paye, puisque c'est mon locataire qui paye les charges. Hein, j'habite ailleurs, hein, donc moi ça m'est égal. Et donc tout ça c'est compliqué et l'ALEC fait un gros travail et en fin de compte effectivement il y a un effet de levier. Alors est-ce que nous sommes d'accord pour récupérer 400 000 euros hein, ben, ça va être ça la question hein. On va vous donner une spécification de vote madame, vous pourrez nous dire ce que vous voulez voter, mais je vais mettre aux voix donc territoire énergie positive pour la croissance verte, 400 000 euros de l'État. Qui est-ce qui est d'accord? Je mets aux voix et je donne la parole à Madame Nicolas pour expliquer son vote.
Voilà, d'ailleurs, je voulais juste féliciter Monsieur Darbois parce qu'effectivement, 5 millions d'euros de retombées économiques sur nos entreprises, eh bien, c'est un très bon début. Vous voyez que je ne suis pas toujours désagréable. Ben oui, c'est bien. Lui, Épinal fait 8, pas Épinal Saint-Dié, c'est bien. C'est... Quand je vous demandais un bilan, c'est un bilan plus global. Hein. Je crois que ça avait été commencé l'année dernière par les services. Ça serait bien qu'on puisse à un moment donné le voir. Puis maintenant, une petite précision pour Monsieur le maire et Marie-Jo, une flotte de bus en biberonnage, il ne faut quand même pas oublier que ça coûte très cher, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros, le double du Métis. Donc pour l'instant, peut-être faire attention, c'est cher, c'est 50 millions d'euros la flotte.
Et vous votez ?
Vote pour, bien entendu.
Merci. Des oppositions ? Encore explication de vote ? Expliquez votre vote ou éventuellement sur le moyen pont, madame, vous pouvez y aller. Allez-y, madame.
Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, je vois que vous êtes tout à fait cohérent avec vous-même. Pas un mot encore, en tous les cas, sur le transfrontalier, sur ce que vivent les frontaliers messins. Bon, c'est un choix pour vous. N'oubliez tout de même pas que c'est tout de même un électorat qui est important. C'est un peu plus de 5000 messins. Il faut quand même le souligner. Je vous signale tout de même qu'aujourd'hui, les cheminots français ne souhaitent plus du tout venir sur le territoire luxembourgeois, ce qui signifie aujourd'hui qu'il y a un vrai problème. Quand je vous dis qu'il y a un vrai problème, il y a un problème de sécurité. Si vous ne voulez pas l'entendre, moi je vous le dis, moi je suis toujours aussi effarée de constater que quand on parle justement d'un problème de transport, on me parle de fiscalité, ce n'était pas du tout la question, mais visiblement, certains députés préfèrent rester à Paris, au moins, ça c'est sûr, c'est beaucoup mieux. Bon, en tous les cas, moi, tout ce que je peux vous dire, monsieur le maire, c'est qu'il y a aujourd'hui un vrai souci et que je vous demande, s'il vous plaît, de prendre ce souci à bras-le-corps. Je vous remercie et je voterai évidemment oui pour ce point.
Ah ben merci. Alors, Madame Thomas, pour expliquer son vote.
Voilà. Alors, si le mot grave est le mot du jour, je dirais grave, monsieur Darbois. Hein, c'est évident que là, c'est bien indiqué perspective 2020. Alors, si vous nous montrez simplement les mesures où ils disent qu'on dit très clairement que les vélos électriques ne risquent pas de vivre jusqu'à 2020, c'est évident qu'on peut avoir une sorte de minorisation des actions fortes qui sont à mener, justement, pour ce qui concerne l'agenda 21 local France. Pour encore une fois l'histoire du patrimoine de Metz, monsieur le maire, qui passait souvent sur le moyen pont, vous regarderez la petite plaque 1082, ou dans ces eaux-là, construction du pont, qui fait partie de l'ancien rempart médiéval, et qui fait partie aussi du tracé médiéval de Metz, avec de fort jolis plans qui montrent bien la ville ancienne, les bords de Moselle, l'arche classée, comme le pont des grilles permettait d'arrêter les invasions fluviales avec des grilles qu'on baissait vers le fleuve. Ça fait partie du patrimoine, une connaissance historique que nous ne nous arrêterons pas, non seulement au temps des huttes, et encore moins à 1945, parce qu'en 1945, il y avait aussi des choses qui existaient, notamment un beau patrimoine à Metz, dans le quartier du Pontifroid, etc., etc. Je vous remercie.
Je n'ai pas entendu votre vote, madame.
Moi, j'ai envie de m'abstenir, justement, parce que les mesures présentées ne sont pas celles qui sont significatives pour une action significatrice.
Très bien. Alors, madame Zimmermann, par exception, un vote peut-être différent de madame...
Non, pas du tout, excusez-moi. Non, c'était simplement pour... Je me permets de reprendre la parole, parce que, si vous voulez, j'ai été un petit peu surprise tout à l'heure par les propos de madame Singer. Je voudrais simplement lui dire qu'elle consulte le JO... Et en le 12-8-2014, la question 67-99, le 28-10-2014, la question 89-42, le 5 mai 2015, la question 79-219 concerne les transfrontaliers, notamment les transports et les problématiques par rapport aux transports en commun sur les transfrontaliers. Donc merci.
Merci madame, merci. Ça suffit pas là. Écoutez, c'était... ça suffit. Les problèmes transfrontaliers, je vous rappelle qu'on est sur un point qui s'appelle territoire énergie positive pour la croissance verte. Alors, on en reparlera. Écoutez, je ne sais pas si Mme Singer est candidate aux législatives. Elle a interpellé les députés. Mme Singer, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui ai la police de la salle. Alors, on va passer au point suivant. Tout le monde a voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une procuration? Je n'ai pas vu de procuration de monsieur. Ah si, il y a une procuration. Alors, 4 abstentions.